بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون شفاء الإسلام نغمسيون الله عز وجل qui nous accepte ce soir pour écouter quelques paroles concernant sa révélation. Et c'est là un grand honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est là la manifestation de sa clémence envers nous que de nous donner la possibilité de nous rapprocher de lui par le biais de sa parole. Et jamais un être humain ne se rapprochera d'Allah Azza wa Jal d'une meilleure façon que par sa parole, par Kalamullah. La meilleure façon de créer une relation avec Allah Azza wa Jal, c'est de le faire à travers ce qu'Allah nous a accordé, qui est le lien entre les créatures et le Créateur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous avait rappelé que je vous ai laissé deux choses, restez accrochés à ces deux choses, vous ne serez jamais égarés. La parole d'Allah et ma parole, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étudiez, essayez d'étudier quelques versets du Coran, essayez de comprendre le sens, essayez de resituer ces versets dans les circonstances de révélation pour comprendre l'impact de cette révélation, l'importance de ces paroles dans un contexte particulier et quel était le but recherché par notre Seigneur et quelle fut la réaction du prophète alayhi salatu wassalam en recevant ces versets et comment est-ce qu'il a pu le mettre en application et comment est-ce que cela a changé sa vie, comment est-ce que cela a amélioré la situation. Ben, tout ça, c'est un enrichissement spirituel. Parce que même si ces versets ont été révélés il y a 1450 années, ben, subhanallah, en 2016, en 2017, quelles que soient les époques, quel que soit le lieu, on a la possibilité de mettre en application le sens de chaque verset du Coran. Et ça, ça fait partie des miracles du Coran. C'est-à-dire que le Coran, ce n'est pas une révélation qui a eu lieu à un moment et qui était valable pour les personnes qui ont reçu le wahi à cette époque. Et ensuite, les gens qui vont venir après ne pourront se contenter que de lire et d'essayer de comprendre le sens. Là, wallah, un des caractères miraculeux du Coran, c'est que chaque verset peut être appliqué en fonction du contexte. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à puiser des versets et quelque chose qui va nous renforcer spirituellement. Dans la sourate Al-Qalam, on avait dit que c'est une sourate qui a été révélée à Mecca et quand on parle de Mecca, c'est une période de difficulté, une période d'oppression, une période de désinformation. C'est une période qui est similaire à celle que nous vivons. Une période de désinformation sur la religion, une période d'oppression, une période où les choses qui nous sont chères, notre foi, notre iman, notre prière, notre pudeur, tout ce qui est cher aux croyants, est remis en question jour après jour, jusqu'à ce que le discours ambiant, le discours qui est accepté de tous, c'est le discours qui va à l'encontre de la religion. C'est un contexte donc très difficile, le contexte de lequel nous vivons, et cette sourate Al-Qalam qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, pour les sahaba, pour l'ensemble des croyants, mais c'est une sourate qui nous apporte beaucoup. Parce que nous voyons à travers les premiers versets que « Ashraful makhlouqat » la meilleure des créatures d'Allah, c'est-à-dire Al-Habib Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, a été l'objet de critiques. Il a été insulté, il a été traité de menteur, traité d'hypocrite, traité de poète, c'est-à-dire menteur dans le sens où il a inventé les paroles du Coran, a'udhu billah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été agressé verbalement, il a été agressé physiquement par la suite, mais il reste le prophète d'Allah. Il reste l'homme le plus aimé, la créature la plus aimée par Allah, et on s'était séparé sur ces conclusions. Le fait de voir la meilleure des créatures d'Allah, Azza wa Jal, subir de telles difficultés, cela nous rassure. Ça nous prouve bien que si nous vivons des situations compliquées à notre époque, ça ne veut pas dire qu'Allah nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'Allah nous a laissés. Ça ne veut pas dire qu'Allah vient en aide à ceux qui luttent contre sa religion, aucunement. Ça veut dire que c'est la sunnah d'Allah. C'est comme ça qu'Allah a toujours agi avec tous les peuples. Il n'y a jamais eu un prophète qui a été envoyé sur terre et qui a reçu un accueil, j'allais dire royal, un accueil prophétique, et qui a été écouté immédiatement par les disciples qui ont mis en application tous ces enseignements, qui l'ont supporté depuis la première minute de la révélation jusqu'à sa mort et qui n'ont causé aucun problème. Ça n'a jamais existé dans l'histoire des wahis, des révélations. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à le prophète alayhi salatu wassalam, chaque prophète a connu son lot d'épreuves. Ça, ça nous rassure. Ça veut dire que quand on est aimé par Allah, c'est là qu'Allah envoie des épreuves. Et le prophète sallallahu alayhi wasallam, tout ce qu'il est en train de subir de la part du Quraysh, des Quraysh, et principalement des membres de sa propre tribu, ben ce sont là des épreuves. Donc ce que nous vivons, d'accord, même si ce n'est pas comparable, ça reste la sunnah d'Allah, ça reste une épreuve. Et ce qui nous rassure également, c'est de voir comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va à l'encontre de l'opinion générale. Les gens de Makka, Mukarrama, à l'unanimité, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi, ils sont d'accord pour critiquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, au-dessus des sept cieux, révèle des versets qui touchent le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le suffit amplement. Et quelle leçon on retient ? Je retiens que si Allah Azza wa Jal me promet le paradis pour l'accomplissement de telle bonne action, si Allah Azza wa Jal me promet Al-Ma'iyya, ça veut dire quoi Al-Ma'iyya ? Qu'Allah est avec moi. Inna Allah ma'a sabirin. Ou qu'Allah est avec ma'al muttaqin. Et qu'Allah, ces versets qui nous prouvent qu'Allah est avec nous, ça doit nous suffire. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dans toutes les situations, face à n'importe quelle injustice, à n'importe quelle oppression, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. Et on doit se satisfaire, on doit se suffire des promesses d'Allah. Même si l'humanité se réunit et s'oppose à toi, si Allah est avec nous, nous sommes les grands gagnants. D'où le hadith du prophète avec Ibn Abbas. Sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal et que c'est un mal qui ne t'a pas été prédestiné et qu'Allah est avec toi, sache qu'Allah est avec toi. Si c'est déjà écrit dans le taqdir, ça va arriver. Mais si Allah n'a pas écrit ces problèmes, rien ne t'arrivera. On doit avoir cet état d'esprit. Ce qui nous arrive, les critiques que nous vivons tous les jours, ben, c'est certainement ce qu'Allah a prédestiné comme épreuve pour nous. Mais du moment que nous sommes en guillemets clean, que notre relation avec Allah Azza wa Jal, c'est la relation du muttaqi, de l'homme pieux, ben Allah est avec nous et c'est amplement suffisant. Et on va voir aujourd'hui un verset, si on a le temps, Inch'Allah, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du futur, dans la première partie de Al-Qalam, dans les premiers versets, ce sont les encouragements pour le prophète sallam par rapport à tout ce qu'ils disent. Point par point, Allah dément ce que les Quraysh disent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le rassurant. Tu n'es pas, ô Muhammad, par la grâce de ton Seigneur un possédé. Il disait qu'il était majnoun, possédé. Allah Azza wa Jal atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas possédé. Il n'est pas fou, il n'est pas comme les personnes disent, bien au contraire. Deuxième encouragement, Allah Azza wa Jal, verset 3, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. Autant les mécréants le condamnent de ce monde à Makka à cet instant, Allah Azza wa Jal le rappelle que la ajr, la récompense qui est qu'Allah a prédestiné pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une récompense qui est ghayra mamnoun, une récompense qui ne sera jamais interrompue, c'est-à-dire la récompense éternelle qui est dans l'au-delà. Et les mufassirin disent que le grand enseignement à travers ce verset, c'est quelle que soit la situation que tu vis, rappelle-toi que ce monde n'est pas une finalité. Ce n'est pas la destination finale. Cette vie, ce n'est pas un but. Alors même si tu vis les pires des moments, sache qu'il y a là-haut ajran ghayra mamnoun, une récompense qui est sans interruption. Et le croyant vit, ses pieds sont sur terre, mais son cœur attend le Jannah avec impatience et attend de retourner vers Allah, parce que le prophète alayhi salat wa salam nous avait dit, et il sait très bien, parce que c'est Allah qui l'inspire, que ad-dunya sijnun lil mu'min, que ce monde de toute façon c'est une prison pour le croyant. Pourquoi la métaphore de la prison? On est privé de beaucoup de choses. Il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire de force. Dans une prison, tu cohabites parfois avec des gens que tu n'as pas envie de voir. Mais c'est comme ça. Sijn, tu ne te sens pas bien. Mais wajannatul lil kafir. Donc, ne sois pas jaloux. Ne sois pas admiratif des personnes qui n'ont aucune limite dans leur loisir, dans leur plaisir, en disant que ben, nous on est bien triste, on ne danse pas, on ne chante pas, on n'a pas le droit de faire la fête, on n'a pas le droit de tromper sa femme, on n'a pas le droit d'avoir une maîtresse ou deux maîtresses et tout. Alors qu'il y a plein de gens qui s'amusent. Ne sois pas triste et n'estime pas que ces gens-là sont heureux. Allah leur a accordé quelque chose, mais c'est la seule chose qu'ils ont depuis le début de la création jusqu'à l'éternité. Ils n'auront rien de mieux que ça. Alors que le croyant, il se prive de ses plaisirs qui pourtant touchent son cœur, mais il sait que là-haut, c'est notre Jannah. Le Jannah pour nous, c'est là-haut. Ce sont des règles basiques. Ce sont des mécanismes qu'on doit mettre en place pour recréer, pour te redonner une vision de la vie et qui est la vraie vision du mu'min. Et donc, ce qui va nous... Il y a deux versets qui nous intéressent aujourd'hui. Le premier, c'est le troisième encouragement de notre Seigneur pour notre prophète Hassan. Et tu es certes d'une moralité éminente. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Le trait de sorcier, de menteur, d'hypocrite, de personne. Ils disent qu'ils sèment la discorde entre les générations. Il n'y a rien de pire que de semer la discorde entre un père et son fils. C'est ce qu'ils l'accusent, les mouchriquines. Allah Azza wa Jal dément tout ce que ces gens disent et rapportent sur le prophète sallam et cette mauvaise réputation. Ils l'ont fait suivre jusqu'à Taif, jusqu'aux tribus arabes, au Hajj. Ils faisaient passer, ils faisaient véhiculer ce message que c'est un homme qui apporte la zizanie, qui sème la discorde à Mecca. Et Allah Azza wa Jal balaye, on pourrait dire d'un revers, avec un verset, tout ce qu'ils ont pu dire. Ben, subhanallah, un verset qui descend sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça apporte le réconfort. Tout comme le voyage nocturne était un réconfort physique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit le paradis, voit l'enfer, il voit le trône d'Allah, il voit les anges, il voit ses frères prophètes, il se rapproche du trône d'Allah azza wa jal, il le vit physiquement et spirituellement. Ces versets, c'était un encouragement spirituel, ça réconforte notre prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'Allah azza wa jal affirme et atteste que tu essaies d'une moralité imminente. Tout ce qu'ils osent dire à propos de ta moralité, à propos de ce que tu fais, tout ça c'est pas vrai. Le Seigneur des mondes décrète que tu as le meilleur des comportements de l'humanité. On va essayer de détailler ça inchallah. Donc il y a ce verset qui nous intéresse et puis un magnifique verset qui parle de l'au-delà, du futur, la mise en garde. Tu verras et ils verront. Bas. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Des versets qui parlent du futur. Et de quel futur on parle? Du akhira. Tu verras et ils verront. C'est-à-dire, en ce moment, ils te disent plein de choses. Et en ce moment, tu vis plein de choses. Mais un jour, comme il dit en créole, un jour, il appelle demain. Là-haut, un jour, il appelle qiyam. Le jour de qiyam, c'est Zalim, ces oppresseurs, ces mouchriquines, ces personnes qui te font du tort et qui ont fait du tort à tes compagnons, ils vont comprendre, ils vont voir de leurs propres yeux que tout ce que tu avais annoncé, c'est haqq. Et toi, tu verras, ainsi que les compagnons, ainsi que les croyants verront de leurs propres yeux que ce en quoi ils ont cru et pour lequel ils ont vécu, ils ont adoré, ils ont adoré Allah, et pour qui ils se sont privés de beaucoup de choses, et pour qui ils ont supporté plein de situations, ils vont voir maintenant la réalité, la concrétisation de la promesse d'Allah. Ça, ce sont des versets qui mettent du baume au cœur. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Tu verras, et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. On le traite de fou, de ainsi de suite, parce qu'il amène une religion qui dérange. Mais ils savaient tous que c'était la vérité. Mais ça dérange. Parce que le fait d'apporter le tawhid, ça faisait perdre Quraysh le monopole sur la péninsule arabe. C'était eux les dirigeants de la Kaaba. Ils savaient que si l'unicité d'Allah entrait dans la Mecque, il aurait fallu enlever les idoles. Et si on enlevait Allat, Wal-Uzza, Wamanat et tous ces idoles, les Quraysh n'ont plus de rôle. Parce que c'est eux les gérants de ces grandes idoles. C'est eux qui accueillent les gens et qui organisent le hajj et le tawaf autour de la Kaaba en fonction de leur loi. propre à eux, à leur tribu. Et ils savent pertinemment que si le tawhid, l'unicité d'Allah, rentre dans la Mecque, ils vont perdre tous ces avantages. C'était une question d'orgueil, de fierté et d'intérêt. C'est ce qui corrompt l'homme. À toutes les époques, je suis persuadé que les plus grands, excusez-moi l'adjectif grand, les plus grands dirigeants de ce monde, ils savent pertinemment la vérité. Ils savent la réalité du dîn. Mais c'est l'honneur, la fierté et les intérêts personnels qui font que peuvent pas se rabaisser à reconnaître que ça c'est la vérité, c'est la religion du haq. Parce qu'ils sont devenus à un moment donné des experts du batil. Ils savent pertinemment comment est-ce que ce qui est négatif se met en place. Ils savent le batil, ils savent quand il y a quelque chose qui est malsain. Et ils savent que de l'autre côté, ce n'est que de la pureté. Mais c'est l'orgueil, la fierté. C'est ce qui fait que certains chefs de tribu mécois n'avaient pas accepté l'islam. Certains sont morts sur le shirk. Hada. Donc on commence le premier verset dont on a commencé un petit peu à traduire. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maintenant Allah Azza wa Jalla atteste que tu es, ô Muhammad, l'homme qui a le meilleur des comportements depuis l'existence de la création. En commentaire, Ibn Kathir rahimahullah, il explique, il commence ce verset tout simplement par un des hadiths qui nous donne vraiment un aperçu, un hadith global qui ne va pas dans les détails que le prophète faisait telle chose, de telle façon. Non, un hadith global de Aïcha radiallahu anha. Une personne avait demandé à Aïcha radiallahu anha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith que tout le monde connaît. Une petite parenthèse avant de rappeler la réponse. À partir de ce hadith et d'autres hadiths encore, les savants disent que la personne qui connaît le mieux un homme, c'est l'épouse. La personne qui connaît le mieux un homme, ben c'est son épouse. Et la personne qui connaît le mieux l'épouse, c'est son mari. Au sein du couple, il n'y a pas de secret. On peut tromper tout le monde. On peut tromper même les proches, les frères, les sœurs, et ainsi de suite. On peut donner une autre image de nous-mêmes devant les gens, devant les parents, devant les voisins, devant la jama'a, devant le public, d'accord ? Mais la personne qui te connaît le mieux, c'est ton épouse. Connaît tes qualités, t'as des qualités qui n'apparaissent pas aux yeux des autres, mais elle connaît également tes défauts, tes manquements, tes faiblesses de foi. Et il n'y a rien de mieux qu'une épouse pieuse et vertueuse qui sera t'accompagner dans ton cheminement spirituel vers Allah. Parce que elle est, j'allais dire que c'est ton cher, c'est presque ton cher. Elle sait en tout cas, hein, c'est pas il voit à travers le cœur, mais elle voit avec ses yeux. Donc ça c'est plus concret. Elle voit avec ses yeux un mari qui a du mal à se réveiller pour la salat de Fajr, par exemple. Ou un mari qui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, qui, je sais pas, après on peut pas énumérer des défauts, Allahu a'lam. On se limitera sur la prière, sur un manquement par rapport à des obligations ou un laisser-aller face à certains péchés. Et c'est elle donc qui te voit, qui est avec toi H24, et si cette personne est pieuse, ben ce qu'elle peut t'apporter, c'est quelque chose d'inestimable. C'était une petite parenthèse. Donc, on avait demandé à Aïcha radiallahu anha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais une des épouses du prophète alayhi salatu wa sallam n'a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais un des... Là, on va dire que oui, bon, ça se comprend, c'était ses proches, oui. Mais jamais non plus Abu Lahab n'a eu quoi que ce soit à dire sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais Abu Jahl n'a eu quoi que ce soit à reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais Ubay ibn Khalaf n'a eu quoi que ce soit à dire sur le comportement, sur le vécu, sur l'historique, sur les faits et gestes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a eu quoi que ce soit, n'a eu l'occasion de relever un défaut ou un manquement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était un homme parfait. Et cette perfection-là, elle venait d'Allah. Et personne après lui n'aura un tel comportement. Personne après lui ne sera parfait. Donc ça nous intéresse de savoir que ses pires ennemis n'ont jamais trouvé quoi que ce soit à dire sur sa personne, sur son intégrité, sur son honnêteté, sur sa sincérité, parce que c'était le meilleur des hommes, admiré même par ses ennemis. Vous avez dit, mais pourquoi il restait ses ennemis ? C'est les trois termes qu'on a dit tout à l'heure. Fierté, orgueil, arrogance et intérêt personnel. Qui fait qu'ils n'ont jamais voulu accepter le haq, n'ont jamais voulu le reconnaître comme le prophète d'Allah parce que de l'autre côté, ils avaient trop de choses, ils avaient trop à perdre. en acceptant la vérité, le haq, alors qu'il y a d'autres personnes qui avaient des grades comme eux, des rangs comme eux dans la société. On pense à Umar ibn al-Khattab, on pense à Hamza radiallahu anhu, et un peu moins on pourrait dire Khalid ibn Walid radiallahu anhu, qui était plutôt expert dans la stratégie de guerre. Mais ces personnes là ils avaient le cœur pur, sincère, et ils ont été élus, ils ont été choisis par Allah. Et même s'ils ont perdu des avantages au sein de la société à Mecca, ils ont gagné en spiritualité. On pourrait citer le jeune qui était riche, qui était admiré de tous, Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, lorsqu'il acceptait la religion, il acceptait l'islam, et que ses parents lui ont imposé un choix. Soit tu suis Mohammed et on te déshérite complètement, tu n'as plus rien, ou alors tu restes avec nous et tu es notre fils avec tout ce que nous avons comme bien, comme bienfait, ainsi de suite. Il a choisi le haq, il a tout perdu. Et vous connaissez son histoire, lorsqu'il est mort, il n'avait même pas assez de tissu pour couvrir son corps, alors qu'à Mecca, c'était le jeune homme le plus élégant, le plus riche, un des plus beaux. Et lorsqu'il se parfumait, et lorsqu'il passait dans une ruelle, on savait que telle personne, Moussa ibn Umair, était passé là, parce que ce parfum, il n'y avait personne à la Mecque qui avait des parfums comme ça. Il a choisi le haq. Ça, c'est un cœur rempli de sincérité qui recherche la vérité. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Et qu'Allah nous protège. On n'est pas fier et orgueilleux uniquement quand on n'est pas de la religion. Non, on peut être religieux, pratiquant, mais il y a une petite fierté intérieure qui nous empêche d'aller vers le haq ou de progresser, mais qu'Allah nous protège. Et qu'Allah nous accorde toujours un cœur qui est prêt à se rabaisser pour Allah. Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse, qui s'humilie pour Allah. Vous avez une situation conflictuelle avec une personne, vous savez personnellement que la personne a tort, vous aimeriez montrer que vous avez raison. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme, de prouver que j'ai raison et qu'il a tort. Mais tu te dis que plutôt que d'envenimer la situation, plutôt que de créer une cassure, plutôt que de séparer des personnes, de casser la muhabba, je vais m'excuser auprès de la personne. Je veux dire que j'ai peut-être mal agi. Tu m'excuses. On est frère en islam, cette personne s'est rabaissée. Aux yeux des gens, on va dire que mais il s'est rabaissé. Il n'a pas d'honneur. Bilax, il se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever. Et ce qui est plus important, c'est ce qu'Allah pense de nous. C'est comment Allah nous voit. C'est le rang que nous avons auprès d'Allah. Et non pas le rang que nous avons auprès de nos semblables, auprès des êtres humains. Aïcha, radiallahu anha, elle répond de la meilleure des façons, kana khuluquhu al-Qur'an. Tout simplement, le comportement de mon mari, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Qur'an, kamilan, dans son intégralité. Et il y a d'autres sources également, ou d'autres chaînes de narration. On avait posé la question à Aïcha radiallahu anha. C'est là où on a le nom, on a Sa'd ibn Hisham. On a le nom du sahaba qui avait demandé à Aïcha comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de répondre, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle a répondu à cet homme, alasta taqra'u al-Qur'an? Est-ce que tu lis le Qur'an? Ne lis-tu pas le Qur'an? Qala bala. Bien sûr que oui. Qalat fa inna خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. Ben, sache que tout ce que tu lis, tous les versets que tu lis, la vie du prophète صلى الله عليه وسلم, c'était la pratique, c'était l'application de tout ce qu'il y a comme enseignement dans le Coran. Et là, on va voir quelques exemples de ce noble comportement, et je jure par Allah que c'est exactement de ça que nous avons besoin. Dans un monde corrompu, dans un monde de désinformation, dans un monde asphyxié par le mensonge, dans un monde où on va essayer de trouver n'importe quel point pour toucher l'islam, que ce soit la tenue vestimentaire des dames, que ce soit... Et il y en aura encore, il y en aura. Je pense qu'ils ont encore dans les tiroirs plein de dossiers à tirer. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire que c'est fini, qu'on est musulman, on est catalogué, on est pointé du doigt, il faut se faire tout petit, il faut être discret. Là, montre le meilleur de ta religion. Parce que l'être humain n'est pas stupide. On devient stupide, oui. Avec l'effet de masse, avec les médias, les hommes, les gens deviennent stupides. Mais dans le fond de chaque être humain, il y a du bien, il y a la recherche de la vérité. Et quand quelqu'un, imaginez qu'une personne qui a une idée et renaît de l'islam par rapport à ce qu'il a entendu, et qu'il te voit, Nabil, ou Mohammed, ou Ishaq, ou Yaqub, il voit ces personnes qui est un voisin ou voisin de palier, qui a un comportement vraiment exceptionnel, qui sort de l'ordinaire, je vous assure que l'impression que la personne aura, ça peut, subhanallah, effacer tous les discours négatifs qu'on entend dans les médias. Donc, il n'y a rien qui est perdu. Il ne faut pas se dire que c'est trop tard, l'islam est grillé aux yeux des gens. Non. Les pires des ennemis, les pires, les personnes les plus convaincues hein, du caractère dangereux que l'islam est terroriste, il suffit de leur montrer le meilleur de nous-mêmes pour que ces personnes basculent et ils voient le haq. À nous de montrer aux gens la vérité. Et ça, c'est un premier palier de la da'wa ilallah, de l'invitation vers Allah. C'est le akhlaq, le comportement prophétique. Alors, et là que, c'est là qu'on va, on va toucher du doigt un décalage dans notre compréhension de la religion. Notre compréhension de la religion, c'est souvent une compréhension en rapport avec les ahkam. Et je vais directement à la conclusion et puis je vais venir aux détails, aux exemples. Parce qu'il y a une conclusion d'Ibn Kathir, rahimahullah, je crains qu'on n'ait pas le temps de conclure, donc autant conclure avant de compléter. Et le prophète, non pas le prophète, Ibn Kathir, rahimahullah, après avoir cité différentes situations où le prophète s'est distingué par son bon comportement, Ibn Kathir dit, sachez que wa ma'na hadha annahu alayhi salatu wassalam sara imtithal al-Qur'an amran wa nahya wa khuluqan wa, puis c'est un peu long, et le prophète est devenu un exemple vivant du Qur'an, de son comportement, de sa manière de parler, d'agir, ainsi de suite. Et après il donne des exemples de haya wa karam wa shaja'a, dans la pudeur, dans la façon de parler, dans son courage. Et je cherche la conclusion, je ne trouve pas. Il dit que tant qu'une personne ne fait pas vivre tout ce panel de comportements, ben, il ne représente pas le Coran. Ça veut dire qu'en commentaire, d'autres savants disent, ça veut dire que la personne qui s'est focalisée, qui a pris que les ahkam du Coran, salat, zakat, saum, hajj, il a pris que les actes d'adoration extérieure et les met en pratique à fond, mais il n'a pas développé le courage, la pudeur, le bon comportement, la générosité, l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est cité, toutes les qualités qui sont aimées par Allah et qui sont citées dans différents versets du Coran, cette personne ne fait pas vivre le Coran. Il n'est pas un Coran vivant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était. Il est encore loin du modèle prophétique parce que cette personne s'est focalisée sur les ahkam bas. Tant qu'il n'y a pas tous les traits de comportement prophétique qui sont cités dans le Coran, ben nous ne sommes pas encore un musulman complet. Et de l'autre façon, ça c'est un extrême. C'est souvent notre cas à nous. Après, il y a l'autre extrême. C'est le cas des philosophes musulmans qu'on peut appeler également islamologues. D'accord ? Et pour ces personnes, le plus important, c'est le bon comportement. Un cœur pur. Dans un corps pur. Puis des trucs de... D'accord ? Le plus important, c'est d'aimer notre prochain, mon frère, ma sœur. Sache que l'amour universel qui baigne mon cœur, j'aimerais te le donner, te le distribuer. Cet amour envahit le cosmos et nous permet de vivre... Ça va, c'est bon. C'est bon. Arrête tes délires. Mais il ne prie pas. Dans la façon, dans la physionomie, le prophète portait la barbe, comme tous les ambiyas, non, il donne pas d'importance. Quand il s'agit d'autres points, ça c'est pas important. Donc, ils vont se focaliser que sur la notion d'amour, des petites fleurs. D'accord ? Mais ça marche pas, c'est pas suffisant. C'est pas avec ces petites fleurs qu'on éteint le feu de l'enfer. Ça, c'est un extrême aussi, et la personne qui, même si la personne est extrêmement généreuse, manchallah, toutes les qualités que le prophète avait, mais s'il n'y a pas les ahkam, tu n'as pas la foi complète. Tu ne fais pas vivre le Coran. Et dans les deux catégories, il y a un bien énorme. Il y a ceux qui se soumettent aux ordres d'Allah, et ceux qui ont vraiment ce comportement prophétique. Mais dans les deux, il y a un manquement. D'un côté, il manque le comportement prophétique, et de l'autre côté, il manque la pratique de la religion. Donc on a besoin des deux et là on devient un Coran vivant. Les exemples à travers la vie du prophète sallam, c'est des exemples de, c'est pas une fois que le prophète l'a fait et puis non, c'était le quotidien du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi des situations qui ont été relatées par Ibn Kathir rahimahullah, un hadith qui est rapporté par Imam Ahmad Ibn Hanbal de le Musnad, dans lequel Aisha radiyallahu anha, elle relate on va dire une anecdote, d'accord, un petit incident, d'accord, un petit incident qui s'est produit du vivant du prophète sallam, et l'incident venait d'elle. C'est un hadith qu'on cite souvent dans les programmes sur le mariage. Elle dit que le prophète alayhi salat wa salam était avec moi. Et sana'tu lahu ta'am. J'ai préparé un repas pour lui. Mais Hafsa radiyallahu anha sana'at lahu Hafsa ta'am. Hafsa avait également préparé un repas et elle l'a fait envoyer par une personne. Et ça n'a pas plu à Aïcha. Il y en a qui ont compris de quoi on parle. Aïcha était jalouse. Elle était jalouse parce que c'est le prophète était avec elle, donc c'est elle qui prépare le repas, c'est un grand honneur pour elle, et Hafsa m'a envoyé quelque chose et apparemment c'était quelque chose que le prophète aimait. Donc ça court-circuite un peu son rôle là à cet instant. Faqalat, elle a dit à une personne qui était avec elle dans la maison, idhabi, va à la rencontre de la servante, on pourrait dire, qui amène ce repas. Et quand ça arrive, ben pousse la personne ou frappe de sa main afin que le récipient tombe. Parce qu'elle ne voulait pas que le prophète mange de ça. On va dire c'est un peu, c'est une faiblesse, mais voilà, d'accord. Et elle avoue à Aïcha qu'elle a mal agi, d'accord. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le prophète a dit, فَأَلْقَتْ الْجَارِيَةَ فَوَقَعَتْ الْقَصَعَةُ فَانْكَسَرَتْ. Le récipient est tombé, s'est cassé, et donc la nourriture s'est éparpillée sur le sol. Et dans un des commentaires, on parle d'une nourriture qui était accompagnée de un peu, une nourriture un peu, pas grasse, mais avec un peu de sauce, d'accord. Donc ça s'est répandu sur le sol. Maintenant, comment est-ce qu'on aurait réagi? Nabil, tu es chez toi, on est samedi soir, madame n'a pas voulu cuisiner. Exemple décalé, hein, d'accord. Mais là, on se met dans une situation, on va dire, à peu près similaire. Madame a dit, non, je suis fatigué, elle travaille toute la semaine, il ne faut pas qu'il mange. Donc, ben, on se débrouille, d'accord. Il y a le pain qui est resté ce matin, il y a du beurre, il y a confiture et tout et tout. Dieu a Dieu, hein. Si vous êtes capable, faites ça au galet colanta, sans souci. Donc, voilà. Et ta sœur, en imaginant que tu es une sœur fictive, elle prépare un repas, mais un repas de chez les repas, un genre de camaron combava avec l'eau à la bouche, d'accord. Et donc Nabil, il accueille ça comme la révélation. Allah wahi. Et ton épouse, elle est embarrassée que elle prend le plat, dit donne-moi ça, elle le jette. Tu fais quoi, Nabil? Finish him. Non, c'est difficile, hein. C'est une situation réelle. Et c'est ça, là, ce genre d'histoire racontée par Aïcha, ça te donne, ça te permet de d'intégrer l'histoire et de te mettre à la place de ces personnages, subhanallah, mais on ne pourra jamais être à la place du prophète sallam. Il est presque inhumain d'avoir une réaction comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moindre des choses, on aurait fait des reproches. Je dis, mais c'est pas des manières, ça. C'est israf, c'est un gaspillage. On serait plus allé vers le côté religieux. Il y a des gens qui meurent de faim. Et moi aussi, mon ventre, il crie. Ça, c'est... D'accord, ça ne le dit pas. Mais il est normal de s'énerver dans une situation comme ça. Il est normal de perdre patience, d'accord. Parce que nous restons des êtres humains. Mais le prophète sallam, à travers sa réaction, et on peut dire, mais est-ce qu'Aïcha a mal agi? Allah, Azza wa Jalla, dans sa sagesse, a voulu que Aïcha, radiallahu anha, agissent de cette façon parce qu'elle était très jeune. Son jeune âge, elle manquait d'expérience, donc elle a une réaction un petit peu irréfléchie, on pourrait dire, mais cela a été une leçon pour toutes les personnes qui écoutent ce hadith, pour voir le comportement du prophète sallam, pour essayer de le mettre en application. Donc il y a une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal dans la façon que Aïcha radiallahu anha elle a agi, et elle reste et elle restera une des meilleures femmes de l'humanité, après Maryam alayha salam, après Khadija radiallahu anha, après Asiya radiallahu anha, une des épouses les plus aimées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam s'est accroupi فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a réuni la nourriture qui était éparpillée sur le sol et il a réuni les débris, les éclats de poterie ou de verre du récipient et il a récupéré un récipient dans sa maison, dans cette maison, pour renvoyer Hafsa, pour compenser ce qu'elle a perdu. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit un mot à Aïcha radiallahu anha. Et dans d'autres versions, le prophète aurait dit aux sahaba, votre mère, c'est-à-dire la mère des croyantes, elle est un petit peu jalouse. Mais le prophète l'a dit avec bonne humeur. Il l'a dit de façon décontractée. C'est pas qu'il l'a dit, il était en colère. Il voulait montrer que c'est là une réaction. Ça peut arriver. Ça fait partie des choses. Ça fait partie des situations de la vie de couple. Mais le prendre d'une telle façon et l'expliquer aux sahaba que c'est une réaction qui peut arriver chez une dame, ben ça montre vraiment le comportement, le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, il est dit « Fama qala shay » Il n'a strictement rien dit. Aucune reproche n'a été fait à Aïcha radiallahu anha. Maintenant, les savants disent à nous de voir dans notre vie de couple pour moins que ça, il y a des fois où on s'emporte et qu'Allah nous pardonne, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous fautifs. Il suffit que le repas a brûlé, on a faim, on sort du travail, on attend et tout, et madame elle est au téléphone avec sa maman ou avec je ne sais pas quoi, et le gratin a cramé un petit peu ou ainsi de suite, on dit mais c'est pas vrai, il n'y avait que ça à faire, il n'y avait rien d'autre à faire, juste que mets au foie et retire, mais il a besoin d'aller namaz, j'ai telle chose à faire, le repas n'est pas prêt, ça nous arrive, oui ou non? Ça arrive. Ce sont des réactions humaines. Mais ces réactions humaines ne sont pas les réactions d'un mu'min. Ouais, ça fait mal, hein? On a tous mal là en ce moment. D'accord? Le prophète sallam, il avait la réaction prophétique. Et devenir un bon musulman, c'est bien, on a notre thawb, kandou, comme on veut l'appeler. Là-bas, mashallah, premier saf, on est là, alhamdulillah, et qu'Allah nous garde le droit chemin, nous donne encore plus de guider. Mais si on veut vraiment devenir un homme pieux, un homme aimé par Allah, ben, voilà cette histoire-là, ben, ça, il faut également l'appliquer dans notre vie. La gentillesse, la bonté avec notre épouse. Et qu'Allah nous accorde cette qualité. Ça, c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième anecdote citée par Ibn Kathir, rahimahullah. Ce sont des histoires que vous connaissez, ce sont des grands classiques. Mais si on creuse, on essaie de bien analyser, on se rend compte qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. Hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Vous avez compris de quoi on parle. Anas ibn Malik relate, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Ah bon, il était au service, ah, c'est quoi cet esclavage? C'était un grand honneur pour lui. C'était un grand honneur pour lui d'être auprès de l'envoyé d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, dit 10 ans. J'étais au service du prophète alayhi salatu wassalam. Fama qala li ufqat wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta. Il dit que pendant ces 10 années où j'étais au service du prophète sallam, il ne m'a jamais dit ouf. Et ouf, c'est un onomatopée qui montre l'exaspération ou la colère, ou même pas la colère, c'est quand on est un peu fatigué, enfin pas fatigué, mais comment on pourrait dire ça? Quand une situation nous agace, un agacement, quelque chose qui nous agace, d'accord? Le prophète n'a jamais montré qu'il était agacé par mon comportement ou par ma façon d'agir ou de travailler. Il m'a jamais fait même pas une parole, même pas un soupir de mécontentement. Et il ne m'a jamais dit à propos de quelque chose que j'avais omis de faire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et il ne m'a jamais dit non plus à propos de quelque chose que j'avais fait, une décision que j'avais prise, pourquoi tu as fait ça? Qui t'a dit de faire ça? Il ne fallait pas le faire. Le prophète n'a jamais fait une quelconque remarque. Et cette personne était au service du prophète sallam. Il explique comment est-ce que le prophète était compréhensible durant toutes ces années. Il dit « Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ahsani nasi khuluqa » C'était une des personnes qui avait le meilleur des comportements de l'humanité. Et à la fin, il dit, après il décrit la beauté du prophète sallam, la douceur de ses mains, le parfum qui émanait de son corps béni, et ainsi de suite. Bon, là, après cette description sur la perfection du prophète sallam, que même sa transpiration sentait le musc, et ainsi de suite. Ce que nous retenons, c'est qu'il était au service du prophète pendant 10 ans et que le prophète n'a jamais fait une quelconque reproche. Et là, on prend une autre claque. Quand on est chef d'entreprise, quand on est patron, quand on a des gens qui travaillent sous notre coupe, on peut se poser la question, comment est-ce que j'agis avec mes employés? Parce que si je conçois la religion uniquement comme une relation d'ibada avec Allah Azza wa Jal, et avec le ibada, je conçois que le bon comportement est nécessaire avec ma femme, avec mes parents, avec mes enfants, avec mes frères, soeurs, et ainsi de suite, famille, voisins. Mais quand il s'agit du travail, à partir du moment où je paye quelqu'un, qu'il y a une compensation financière, je suis en droit de le dicter ou de dire tout ce qui me passe par la tête. Ben, si c'est ça ma conception de la religion, je ne suis pas encore arrivé au comportement prophétique. Je ne suis pas encore un homme pieux. Donc l'homme pieux, c'est celui qui, dans ses relations avec les personnes qui sont sous sa responsabilité, ben que cette personne ait avec eux également le meilleur des comportements. Hada. Troisième et dernier exemple, ben il y en a d'autres, mais on s'est limité à ces trois. Aïcha radiallahu anha explique que ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biyadihi khadiman lahu qat wala mra'atan. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé une personne. Jamais de sa vie, il n'a frappé une personne, que ce soit les gens qui étaient à son service, que ce soit une de ses épouses, il ne l'a jamais fait. Les seules fois où il a utilisé sa main, c'était lorsque les musulmans étaient attaqués. Badr, Uhud. Là, il fallait se défendre. Et le Prophète était gravement blessé, par exemple, à Uhud. Là, le Prophète, il était avec les musulmans, il défendait les causes de la religion, d'accord? Mais dans ses relations avec les gens, jamais le Prophète, comme on l'a dit, il n'a jamais fait de remarques, jamais insulté, jamais frappé quelqu'un. Alors, lorsqu'on entend des personnes qui n'arrêtent pas de décrire l'époux musulman comme celui qui a en droit de frapper à n'importe quelle situation ou que la femme musulmane est une femme battue et opprimée, je dis non. Retournez à la sirat, voyez comment était le comportement du prophète sallam avec Khadija, avec Aïcha radiallahu anha, et là on verra quel est le comportement d'un homme, d'un mu'min, d'un croyant avec son épouse. Tout ça, ça fait partie du comportement prophétique. Tout ça, ce sont des qualités que nous devons réunir pour être un mu'min, pour être un homme pieux qui fait vivre le Coran dans sa vie. On va s'arrêter à là pour ce soir, Inch'Allah. Le Prophète avait dit « Innama bu'ithtu li utammima » dans une version « makarim al-akhlaq » dans une version « salih al-akhlaq » « J'ai été envoyé pour parachever » pour compléter le bon comportement. Tout ce qu'il y avait de bien chez les Arabes et dans l'humanité d'une façon générale, le prophète l'a repris et l'a perfectionné pour donner à l'humanité le meilleur exemple de ce qu'Allah attend d'un homme. Et c'est lui notre exemple. Et si nous arrivons à faire vivre quelques facettes de ce comportement prophétique, nous serions les meilleurs du'at, les meilleurs da'i ilallah. Ça, ce serait une da'wa qui toucherait les cœurs et qui pourrait rectifier tout ce qu'on entend autour de nous. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité d'avoir quelques traits de ce comportement prophétique. Qu'Allah nous permet de combler nos manquements dans notre comportement, que ce soit avec nos proches, avec notre épouse ou avec nos collègues de bureau ou les employés éventuellement qui sont sous notre responsabilité, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde vraiment le comportement prophétique et une compréhension générale de la religion. Inch'Allah, vendredi prochain, on va parler du verset où on annonce comment est-ce qu'ils vont vivre ces situations dans le delà. Tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum.